bien. C'est très, on est très, en fait, on est très impressionnés de se retrouver dans une église pour cette rencontre. Outre le fait qu'il va y avoir beaucoup d'écho, ça, je ne sais pas si on peut le corriger. Est-ce que vous pensez qu'on peut corriger un peu l'écho? Parce que non, hein. Oui, il faudrait faire un peu moins fort. Est-ce que c'est gênant, l'écho? Ça vous dérange? Moins fort, hein, peut-être. Là, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça me semblait beaucoup. Alors, je pense qu'on va mettre tous les micros comme ça à un niveau plus bas, puis ça devrait aller. Bon, alors, il y a l'écho, mais il y a aussi le lieu qui est effectivement très impressionnant. Alors, je ne sais pas si la question de la langue française va nous emmener vers des considérations qui vont tirer vers le religieux, on va voir. Mais en tout cas, c'est le thème de notre rencontre, la langue française en partage. Peut-être le mot de partage est-il déjà indicateur de quelque chose. Je vais commencer par faire des présentations. Kaouter Hadimi, vous êtes née à Alger. Vous y avez obtenu une licence de langue et de littérature française avant de venir vivre à Paris. Vous avez publié des nouvelles qui ont été distinguées par le prix du jeune écrivain francophone. Votre premier roman, L'envers des autres, qui était initialement paru aux éditions Barzac en Algérie, est paru chez Actes Sud en 2011. Vous avez obtenu le prix de la vocation cette même année 2011. Et puis en 2015, le prix du roman de la Fondation France-Algérie. Votre deuxième roman, Des pierres dans ma poche, est paru aux éditions du Seuil en 2016. Et puis le dernier, Nos richesses, 2015, d'accord ? Nos richesses vient de paraître en cette année 2017. Bon, c'est un petit détail de date, c'est pas très grave. Mariam Majidi, née à Téhéran, vous avez quitté votre pays en 1986, lorsque votre famille est venue s'installer en France. Vous avez fait des études de lettres avec un mémoire de maîtrise sur deux très grands auteurs iraniens, le poète Omar Khayyam et puis le romancier Sadegh Hedayat. Et vous enseignez dans des collèges et des lycées. Vous avez ensuite vécu en Chine, en Turquie, où vous avez enseigné le français et langue étrangère, avant de revenir en France. Et nous allons parler de votre premier roman, qui s'intitule « Marx et la poupée », qui est paru au Nouvel Attila, et qui a notamment reçu le prix Goncourt du premier roman. Et puis Akira Mizubayashi, romancier, essayiste, traducteur, né au Japon. Après des études à Tokyo, vous êtes venu en France en 1973 pour suivre une formation pédagogique pour devenir professeur de français. Et vous êtes revenu plus tard, en 1979, comme élève de l'école normale supérieure. Et puis vous avez ensuite enseigné le français à l'université Sophia de Tokyo. Vous êtes notamment l'auteur de « Une langue venue d'ailleurs », paru chez Gallimard en 2011, qui a reçu le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française, auteur de « Mélodie, chronique d'une passion » en 2013, de « Petit éloge de l'errance », tous chez Gallimard. Et votre dernier roman s'intitule « Un amour de mille ans » et il vient juste de paraître aux éditions Gallimard. Alors, pour ouvrir cette discussion, j'avais peut-être envie d'introduire quelque chose qui me semble être une différence intéressante à souligner quant à votre relation avec cette langue française, avant d'aborder les textes, hein, bien évidemment, parce que la langue française est présente en Algérie pour des raisons historiques, puisque c'est la colonisation qui a imposé cette langue à votre pays, Kaouter Hadimi, tandis qu'en Iran et au Japon, la relation avec la langue française est une relation libre et consentie. Il n'y a pas eu historiquement d'épisode qui l'ait imposée. Et il me semble que déjà, ça a introduit une certaine différence, me semble-t-il, Kaouter Hadimi. Vous avez une position peut-être déjà différente par rapport aux deux autres... Si, je pense qu'il est branché. Oui. Non ? Il n'est pas branché, alors. Alors, attendez. On va... Si, ça y est ? Voilà. Mais pourtant, c'est allumé. Non ? Ah, si. Oui, cette fois-ci, ça a l'air bon. Il est peut-être un peu paresseux.
Je le prête. On va faire un micro Iran-Algérie. Je pense qu'effectivement, le rapport à la langue ne doit pas être le même. Et on va réagir dessus. Après, en Algérie, en tout cas, je pense que la différence palpable, c'est que la langue française a une place très forte en Algérie au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des journaux en langue française, il y a des radios, des chaînes de télévision en langue française, les panneaux sont en français et en arabe. Puis à l'école, dès la première année du primaire, on a des cours en français et des cours en arabe. Donc, normalement, on est censé être totalement bilingue, même si dans la réalité, il y a des gens qui sont meilleurs en français et d'autres meilleurs en arabe, et que dans les petites villes où la scolarité est plus complexe avec des profs moins présents, c'est plus arabophone. Mais la langue française est, fait partie intégrante du pays. Alors oui, il y a un passé historique extrêmement fort et le rapport à la langue française en Algérie a été passionnel et passionné puisque avant l'indépendance, écrire en français était une position affirmée des écrivains. Kateb Yassine dit cette fameuse phrase « Le français est mon butin de guerre parce que j'écris en français pour dénoncer la France ». Après 62, ce qu'on connaît un peu moins, c'est qu'il y a eu toute une politique d'arabisation, mais aussi de francisation, puisqu'on a demandé, moi, la génération de mes parents leur a demandé de choisir entre le français et l'arabe. Ce qui est assez clivant, finalement, puisqu'on a créé des générations de francophones et des générations d'arabophones, pour la génération de mes parents, qui étaient totalement en opposition, qui manifestaient les uns contre les autres, qui avaient une position très frontale sur les sujets, etc., etc. Ma génération est beaucoup plus apaisée sur le sujet, et écrire en français ou écrire en arabe, et à mon sens, ne m'ont pas considéré comme un acte de bravoure ou de résistance. Moi, écrire en français ne veut pas dire, ce n'est plus considéré comme une opposition à la langue arabe ou comme une manière de dénoncer quelque chose qui se passe avec la France. Parce qu'aussi, on a grandi dans un environnement beaucoup plus apaisé. Mais moi, je triche un peu parce que ce qui n'est pas dit dans ma biographie, ce qui est très peu su, c'est que j'ai grandi en France. Donc, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, en fait, pour moi, ne s'est jamais posé la question du choix de la langue. J'ai fait ma maternelle et une partie de mon école primaire en France, donc en français. Donc, j'ai appris à lire et à écrire en français avant d'apprendre à lire et à écrire en arabe. Et l'arabe est devenu ma langue qu'à partir de l'âge de 8 ans, quand je suis revenue en Algérie en 94. Donc en fait, je pense que ça va être très intéressant, mais que ça sera très différent aussi dans notre manière d'appréhender cette langue. Voilà.
Ce sont des positions effectivement très différentes pour ce qui vous concerne, Akira Mizubayashi, et on le retrouve dans votre dernier roman à travers votre personnage qui s'appelle Sensen. Sennen. On retrouve quelque chose que vous avez déjà dit dans plusieurs de vos livres, dans le dernier, notamment qui était Petit éloge de l'errance, à savoir que le déracinement voulu que vous avez opéré vis-à-vis de votre pays, le Japon, vous avez réussi à le faire grâce à la langue française, qui a donc été pour vous un instrument de liberté.
Oui.
Oui, il est.
Alors... contrairement à ce qui vient d'être dit, le français est très, 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 très peu présent au Japon. Le français n'est même pas enseigné dans les lycées. Donc, je suis arrivé à la langue française très, très tardivement, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. Je suis tombé un jour sur un texte magnifique, un texte japonais, écrit par un philosophe japonais. Et ce texte parlait magnifiquement de la langue française et d'une manière plus générale de la culture européenne. Et alors j'ai été extrêmement séduit alors que j'étais matheux plutôt et j'ai à ce moment-là décidé d'apprendre le français et j'ai donc... persévéré dans mon apprentissage et j'ai eu la chance de venir en France après 3 ans d'apprentissage. J'ai fait un premier séjour à Montpellier qui a duré 2 ans. Ensuite, j'ai voulu continuer, donc j'ai fait un doctorat et ça m'a permis de revenir à Paris cette fois-ci. Donc j'ai fait un deuxième séjour à Paris, qui a duré 3 ans, donc dans mon existence, qui a commencé il y a plus de 60 ans, j'ai vécu en tout à peu près 5 ans en France, dans l'espace francophone. Et je suis rentré au Japon, et par la force des choses, je suis devenu enseignant, j'ai commencé ma carrière universitaire dans les années 83-84. Et voilà, donc j'étais pas du tout destiné à écrire et à publier en français. Et J'ai toujours écrit pour moi-même. C'était une sorte d'exercice de style pour apprendre le français. J'ai toujours écrit en français, mais pas du tout dans l'intention de publier quoi que ce soit. Et un jour, exactement en 2008, j'ai fait une rencontre magique et miraculeuse. J'ai rencontré M. Pontalis, J.B. Pontalis, un éditeur chez Gallimard. On a passé une soirée ensemble. Et à l'issue de cette soirée, il me dit, il y a de quoi faire un livre. Et c'est comme ça qu'il m'a incité à, qu'il m'a invité à écrire mon premier livre, qui s'intitule, comme Catherine l'a dit, Une langue venue d'ailleurs. Il voulait que j'écrive un livre sur mon rapport à la langue française. C'est comme ça que je suis, devenu... un auteur japonais, mais d'expression française. Ceci dit, je n'ai pas totalement abandonné la langue japonaise. Avant de passer à l'écriture en français, j'ai publié 7 livres en japonais dans le domaine de la recherche, donc dans la recherche littéraire. Et puis, donc, mon premier livre en français date de 2011. Et depuis cette date, je suis passé plutôt. Je traverse actuellement une période française. Et mon quatrième livre est sorti au mois de mars. Et je viens de terminer mon cinquième livre qui va sortir bientôt, sans doute.
Mariam Majidi, c'est encore une autre approche et une autre sensibilité qui s'exprime dans votre roman par rapport à cette question de la langue française, puisque dans Marx et la poupée, vous restituez les souffrances d'une petite fille exilée avec sa famille en France, une petite fille iranienne, souffrances liées au fait qu'elle comprend qu'elle ne parvient pas à s'exprimer correctement dans la langue française, bien qu'elle l'ait apprise, et souffrances liées au fait aussi qu'elle est regardée comme une étrangère. Et donc, dans un premier temps, sa relation avec cette langue est une réaction de refus et de retrait. Elle décide d'être... Elle ne parle pas, elle est muette. Donc voilà, la première expérience, c'est celle de la souffrance.
Alors, c'est intéressant le parallèle avec Kauter, parce que moi, je suis donc née en Iran, et ma langue maternelle... était le persan, puisque de ma naissance à l'âge de 6 ans, j'étais en Iran, je vivais en Iran, j'étais iranienne, je parlais persan. Et c'est à l'âge de 6 ans que je découvre le français. Et donc, cette souffrance dont vous parlez est liée, en fait, à la langue de l'exil. C'est-à-dire que le français est devenu la seconde langue, la langue du pays étranger, en fait, et dans lequel on était aussi étranger avec mes parents. Donc ça, c'est le... C'est pour ça que ça peut pas être un rapport simple, en fait. Et d'où ce rapport ambivalent d'attirance et de rejet, d'amour et de haine. Voilà. Donc, et je pense effectivement que donc ce que je raconte dans Marx et la poupée, c'est effectivement une petite fille qui refuse au départ. Alors, c'est pas le français qu'elle refuse, c'est le temps qu'il lui faut pour digérer cette nouvelle langue en elle. Voilà, pour pouvoir en fait l'enfanter. C'est la métaphore que j'ai utilisée dans le roman. Et à partir du moment où elle enfante son français, elle refuse par contre là, de manière très radicale, le persan. Parce que c'est une langue qui dérange. C'est la langue qui renvoie à ce pays que ses parents ont dû quitter par la force des choses, parce qu'ils étaient militants, parce qu'il y avait une répression terrible au niveau politique. Et donc, c'est à ce moment-là le persan qui devient la langue, en fait, quelque part, de son identité d'exilé. Donc, moi, j'ai toujours jonglé, en fait, entre les deux langues. Et j'ai jamais choisi d'écrire en français, parce que c'est la langue d'écriture et de lecture dès le CP. C'est la langue que j'ai, en fait, dès ma première année à l'école, c'est le français que j'ai appris à lire et à écrire. J'ai jamais été scolarisée en Iran, donc... J'ai jamais appris à lire et à écrire le persan. C'est pour ça que je n'ai qu'une connaissance finalement orale en fait de la langue persane. Les gens me disent mais pourquoi vous n'avez pas écrit, pourquoi vous n'écrivez pas en persan ? Mais je ne peux pas écrire en persan. J'ai pas du tout le niveau. Ce serait même un livre pour enfants avec quatre phrases, j'aurais du mal à l'écrire. Je ne peux pas écrire en persan. Et donc j'ai pas choisi en fait le français. C'est ainsi. Ça s'est imposé à moi et peut-être, voilà, c'est là où ça fait écho en moi, ce que disait Kauder. C'est que J'ai jamais choisi ça. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que pour le mémoire de littérature comparée, quand j'étais étudiante, j'aurais très bien pu choisir un auteur français, mais j'ai choisi à ce moment-là deux auteurs persans, parce que j'avais besoin de renouer en fait avec cette langue que j'avais mise de côté depuis 17 ans dans ma vie. Donc c'est là où on retourne, je pense, toujours à nos racines d'une manière ou d'une autre.
Là, vous avez introduit une notion qui est bien sûr importante et qui différencie considérablement la relation qu'on peut avoir avec une langue, c'est celle d'exil. Vous en parliez, Kauter Hademi, dans votre précédent roman « Des pierres dans ma poche », en disant que vous n'avez jamais ressenti cette nostalgie ou cette souffrance liée à l'exil, tout simplement parce que vous faites des allers-retours incessants, comme vous avec Tokyo, vous faites des allers-retours incessants entre Paris et Alger, de telle sorte que la notion d'exil, finalement, est un peu étrangère à ce que vous avez vécu.
Mais en fait, déjà, moi, je suis un peu comme... Enfin, vraiment, ça va être redondant, mais vraiment, ce que dit Mariam me touche, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je suis née à Alger jusqu'à 4 ans. Mes parents sont arabophones, c'est-à-dire qu'eux ont étudié en arabe, nous parlaient qu'en arabe. Jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai entendu parler qu'arabe. Et à la maison, il n'y avait que des livres en arabe. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de livres en arabe à la maison. Et pour eux, c'était très important qu'on soit excellent en arabe. Bon, accident de parcours, entre guillemets, on va en France de 90 à 94, donc de mes 4 ans à mes 8 ans. Et j'apprends le français et j'apprends à lire et écrire en français comme Mariam, exactement la même chose. À 8 ans, on revient en Algérie, à Alger, et à ce moment-là, pour moi, il y a comme une forme de rejet. Parce que Alger en 94, c'est la guerre civile, c'est le terrorisme. J'ai toujours tout fait à l'envers. C'est-à-dire, on revient en Algérie au moment où tous ceux qui peuvent essayent de fuir l'Algérie. Et moi, mes parents reviennent en Algérie et on se réinstalle à Alger. Et pour mes parents, de toute manière, il était évident dès le départ que jamais on s'installait en France définitivement. Il était évident dès le début qu'on reviendrait. Et donc, le rapport, je pense que j'ai cristallisé aussi la langue française à ce moment-là. Puisque moi, en 94, mes parents, ils ont dit « ça suffit, maintenant on revient à l'arabe ». Sauf que, évidemment, à 8 ans, moi je l'avais digérée, cette langue, pour reprendre ta métaphore. Donc elle n'est plus jamais repartie. Puis j'adorais lire. Et en fait, la lecture, c'est comme une empreinte. Hein. Donc moi, j'ai toujours adoré lire depuis toute petite. Donc de toute façon, on n'aurait jamais pu m'enlever le français à l'âge de 8 ans. C'était trop tard. Mais je suis allée adopter cette langue qui était la mienne, qui oralement faisait partie de moi. Et j'ai commencé à l'apprendre à 8 ans. Mais je l'ai apprise en ayant l'impression d'être dans une ville qui m'était étrangère, parce que j'arrivais à Alger, je connaissais personne, j'avais 8 ans, je parlais pas la langue, et puis j'arrivais dans un pays en conflit, en guerre, hein, donc il y avait un couvre-feu, on n'avait le droit de parler à personne, tous les variables avaient changé. Donc pour moi, je me suis sentie étrangère à Alger entre 94 et 98, puis en 98, on part s'installer à Oran, donc à 500 km, et là, c'est encore une nouvelle langue parce que c'est un autre dialecte. Et c'est un dialecte extrêmement différent de celui d'Alger. C'est aussi une autre manière. Donc, je réapprends une nouvelle langue et je me sens encore étrangère. Puis, on revient à Alger. Puis, finalement, je pars vivre à Paris. Donc, pour moi, l'exil, il veut tout dire et il veut rien dire. Je n'aime pas ce mot d'exil parce que je pense que quand on vient d'Algérie ou quand on vient d'Iran, quand on vient de plein de pays, le mot exil veut dire quelque chose d'extrêmement fort qui, je pense, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Je pense que les parents de Mariam ont une notion de l'exil beaucoup plus importante que ce que moi je suis. Et alors du coup, je n'aime pas ce mot et j'ai plutôt envie de dire que je suis un peu étrangère, un peu partout, tout en essayant de trouver une racine profonde à Alger. C'est chez moi et j'y retourne 3 à 4 fois par an. Mais que la langue française a un peu été à un moment donné de ma vie une espèce de langue refuge. Parce que c'était une langue familière en 94, à un moment de ma vie où c'était extrêmement douloureux et que finalement je me suis un peu réfugiée dans cette langue et dans la littérature. Et j'ai mis très longtemps à me mettre à la littérature arabe, tout en lisant et en écrivant l'arabe, parce que je fais mes études en arabe. Et comme Mariam, quand je fais un master de littérature comparée aussi, bah, j'ai choisi des auteurs, un auteur algérien qui avait écrit en arabe, et j'ai retravaillé sur ce texte-là. Voilà. Un espèce de retour aux origines.
Moi, j'aime beaucoup dans ce que vous disiez tout à l'heure et qui est présent également dans votre roman, Mariam, c'est l'idée que la petite fille qui refuse dans un premier temps la langue française, le jour où elle l'accepte, c'est comme une deuxième naissance. Il y a une sorte d'enfantement à travers la langue. Et l'idée que l'on puisse advenir au monde à travers une nouvelle langue que l'on est en train d'apprendre, c'est un peu ce qui est le cas de votre personnage, et ce que vous relatez d'ailleurs dans tous vos textes, Akira Musabayashi. Il y a une sorte de renaissance à travers la langue française. Alors, non pas d'un être totalement différent, mais de quelqu'un qui a une sensibilité au monde, qui s'exprime dans une autre langue. C'est une forme d'enfantement.
Exactement, oui. Je crois que c'est une naissance, oui. Pour plaisanter, de temps en temps, il m'arrive de me présenter... je suis né en français à l'âge de 19 ans. Quoi, à l'âge de 18 ans, oui. Oui, c'est tout à fait ça. Et je crois que ce qui a été déterminant pour moi, c'est comme je suis devenu professeur de français, de littérature française, j'ai choisi mon siècle et mon champ de recherche assez rapidement, et j'ai choisi le XVIIIe siècle. Donc, j'ai fréquenté pendant presque 30 ans, 35 ans, les grands auteurs du siècle des Lumières, comme Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu. Et finalement, j'ai fini par épouser l'esprit des Lumières. Alors, qu'est-ce que l'esprit des Lumières pour moi ? Alors, je dirais que, en reprenant un peu le titre de l'article Diderot dans l'encyclopédie, éclectique, l'esprit éclectique. Alors, c'est un très très beau texte que j'aime beaucoup. Il dit qu'être éclectique, l'esprit éclectique s'oppose à l'esprit de secte dans son esprit, dans cet article. Et donc, être éclectique, c'est-à-dire, c'est pour Diderot, c'est l'essence même de l'esprit des Lumières. Être éclectique, c'est arriver à se forger une philosophie domestique. C'est l'expression de Diderot. Philosophie domestique à partir de différentes idées, différentes pensées proposées par les uns et par les autres. C'est-à-dire, c'est le refus de toute forme de dogmatisme, de toute pensée dogmatique, toute idée toute faite. Et voilà, je crois que quand j'ai réussi d'une certaine manière à intérioriser cet esprit des Lumières, cet esprit éclectique, ça a été une sorte de libération. Voilà, c'est l'art de s'éloigner de ce qui est naturel, être éclectique. L'art de s'éloigner de ce qui est natal, de ce qui est naturel, de ce qui est maternel. Ça correspondait parfaitement à un sentiment d'étouffement que j'éprouvais dans ma propre langue. C'est certainement lié au contexte des années houleuses politiquement que le Japon traversait dans les années 68-70. Et c'est à ce moment-là, tout à fait quasiment miraculeusement, j'ai rencontré l'auteur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est cet auteur qui m'a conduit vers le français. Et par la suite, j'ai fréquenté donc les grands auteurs des Lumières. Et j'ai fini par adopter cette attitude éclectique qui essaye de se donner une philosophie personnelle à partir de différents éléments qui existe dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai perçu la langue française comme une occasion de sortir d'une sorte de prison qui était la langue japonaise.
On peut étouffer dans une langue, vous venez d'utiliser l'expression, et c'est intéressant parce que ce qui ressort de vos expériences respectives, c'est précisément ce registre de l'émotion, c'est-à-dire qu'une langue n'est pas un outil froid et utilitaire, simplement. C'est un être vivant vis-à-vis duquel on peut avoir des passions, des rejets, des frustrations, des refus, des voilà. C'est vraiment un... Et alors bien sûr, quand on est écrivain, a fortiori, ça redonne encore davantage de sens à cette relation. C'est un corps passionnel, la langue, en fait.
Un corps, oui, c'est une belle expression, un corps passionnel. Oui, d'autant plus que en moi, en fait, c'est vraiment cristallisé deux émotions un petit peu. Alors, je dirais, avant, je disais opposées, mais maintenant, en fait, je vais de plus en plus vers la complémentarité. Deux émotions complémentaires. Et ça se traduit aussi dans mon rapport, en fait, aux deux langues. C'est-à-dire que j'ai un rapport. Beaucoup plus cérébral, en fait, au français, et beaucoup plus émotionnel au persan. Mais parce que je pense que c'est effectivement le lien avec la terre natale, avec la naissance première, avec la mère, et d'autant plus que moi, je n'ai pas une connaissance littéraire, érudite, philosophique, enfin, écrite du persan. Donc, c'est un peu le siège de toutes les émotions. Et c'est vrai que quand j'ai écrit Marx et la poupée et quand j'écris en français, il y a vraiment, en fait, le persan qui, alors, est invisible, mais qui va comme insuffler une émotion très vive au français. Donc, voilà, c'est vrai que le retour que j'ai eu des lecteurs, c'était souvent « Ah, mais c'est une boule d'émotion, il y a des passages qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, etc. » Mais parce que je pense vraiment que, de plus en plus, je me dis que c'est une manière, peut-être, je sais pas, pour le persan de se rendre visible, en tout cas de mon rapport au persan qui se rend visible dans le français. Après, je pense que de manière générale, une langue, effectivement, n'est jamais un outil froid, puisque c'est le lieu de l'expression de nos émotions, de nos sentiments et de nos idées. Donc, on a affaire, de toute façon, à toujours, enfin, pour moi, à l'émotion dès qu'on ouvre la bouche. Voilà.
Je pense quand même qu'il y a un mélange à la fois de l'émotion, parce que moi, mes textes se passent en Algérie, ce que j'écris, ou en France, mais en tout cas, c'est des romans sur l'Algérie, c'est mon grand projet d'écriture. Et l'Algérie, elle est multiple, elle est arabophone, elle est francophone, elle est berbérophone, etc. Donc dès lors qu'on essaye de prendre en photo, j'aime bien cette idée de prendre en photo une époque ou une période, un lieu, etc., même si on écrit en français, il ne peut qu'y avoir des échos arabes, berbères, des échos multiples dans mon texte. Mais je pense que la langue est aussi un outil. Et que ici, moi je suis extrêmement admirative de ce que vous faites, parce que moi, personnellement, si j'écris en français, c'est aussi parce que j'ai beaucoup plus de facilité en langue française, et que s'il fallait que je me mette à écrire en arabe, eh ben, ça me prendrait énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de fatigue nerveuse, et que finalement, cette langue, en fait, jouer avec les mots, jouer avec les sens, jouer avec les symboles, faire écho à d'autres textes, d'autres auteurs, etc., c'est quelque chose qui me plaît profondément et dans lequel je me sens extrêmement à l'aise et qui est naturel. Et donc, s'il fallait que j'aille écrire en arabe, il me faudrait un effort vraiment qui serait de l'ordre du superficiel, peut-être. Et donc, en cela, c'est un outil. C'est un outil que j'utilise peut-être un peu avec paresse, parce que finalement, je me sens bien dans cette langue lorsque j'écris, et donc je ne ferai pas cet exercice de retourner à l'arabe pour écrire, parce que je trouverais ça beaucoup plus difficile. Mais il n'en est pas moins que le lien est complexe. Par exemple, moi, il m'arrive de ne pas retrouver des mots parce que je ne les connais qu'en arabe ou que je ne les connais qu'en français. Et que ce passage de la langue à l'autre, il n'est pas si évident, c'est pas du noir et du blanc. Et dans la question des émotions, moi, il y a des émotions qui sont en arabe et il y a des émotions qui sont en français. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, la colère, quand on est dans l'ordre de la colère et de cette colère froide et forte, de cette colère, en fait, qui dépasse le raisonnement et l'entendement, il n'est pas possible pour moi d'utiliser une langue que j'ai apprise même à 4 ans. Et donc, je reviens à la langue de la naissance, à la langue de la mère, à la langue du père. Et lorsque je suis extrêmement en colère, par exemple, il m'est quasiment impossible de parler en français.
Il y a une rupture, en fait, il y a un retour aux sources. Et ce lien, forcément, ça se voit dans le texte de Maria, mais forcément, ça se voit aussi dans mes textes. On ne peut pas faire autrement, ça fait partie de nous, et on donne tellement de nous dans les livres que forcément, ça ressort ainsi.
Voilà. Alors, j'ajouterais juste que la colère, oui, mais aussi... L'amour, l'effusion sentimentale, chez moi, s'exprime aussi en perçant. Donc, les grands moments où on a envie d'exprimer un amour fou pour quelqu'un ou pour quelque chose, moi, c'est toujours des mots extrêmement tendres en perçant qui ressortent, ce qui fait beaucoup rire les gens, parce que d'un coup, je sors une expression en perçant que personne ne comprend. Mais c'est vrai que c'est d'abord comme ça que ça sort. Donc, peut-être, en tout cas, chez moi, les émotions vives, c'est effectivement.
C'est mon perçant. Oui. Ces mots perçants apparaissent dans vos livres ?
Non.
Non.
J'aurais pu.
Ce serait intéressant d'ailleurs de parsemer le texte français.
Oui, mais en fait, c'est ridicule parce que si on traduit, ça ne veut rien dire. Par exemple, il y a une expression persane qui veut dire Qurbunet Beram. Et Qurbunet Beram, ça veut dire, si on traduit vraiment mot à mot, ça veut dire je suis ton mouton sacrificiel. Vous voyez, ça veut plus rien. Enfin, imaginez une femme amoureuse de vous qui vous dit « Je suis ton mouton sacrificiel. » Voilà, tu peux me sacrifier comme un mouton. Donc...
Non, parce que c'est l'Aïd, en fait. C'est
le jour. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'Aïd.
Ça tombe très, très bien.
On est, le mouton est d'actualité.
C'est très, très bien. Là, on est dans l'actualité.
Tout à fait.
Le problème de l'émotion est très, très intéressant. Donc j'écris en même temps, presque à la fois en japonais et en français. Bon, j'écris des écrits intimes, des fictions en français. Et puis j'écris des essais, plutôt des essais en japonais. Mais quand j'écris en français... il y a des moments, c'est rare, mais ça arrive, il y a des moments où j'ai envie, je ne trouve pas d'autres mots, je ne trouve pas de mots en français, mais il y a un mot qui correspond en japonais au sentiment que j'aimerais exprimer. Et alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, j'introduis ce mot japonais, mais de telle façon que les lecteurs qui me suivent puissent comprendre, imaginer. Je ne donne pas forcément d'explication, mais ça va, ça reste comme ça un mot étranger. Mais le lecteur qui suit peut imaginer de quoi il s'agit. Alors, une autre chose que j'ai constatée, c'est quand j'ai écrit Mélodie. Mélodie, c'est l'histoire d'une chienne avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois. Et après sa disparition, j'ai été fortement troublé. Elle venait... me voir presque chaque nuit dans mes rêves. Donc j'ai décidé d'écrire quelque chose sur elle, édifier un tombeau littéraire. Et donc je décris depuis notre vie commune, depuis notre première rencontre jusqu'à la mort de Mélodie. Et eh bien, quand on parle d'un animal... En français, le français dispose d'un vocabulaire spécifiquement animal. On ne parle pas du visage d'un animal, d'un chien. Et puis, Mélodie a mis bas 9 chiots. Et mettre bas, c'est un mot très laid pour moi. Et alors qu'en japonais, en japonais, le vocabulaire animal et le vocabulaire humain, c'est strictement la même chose. Donc je savais que en parlant de Mélodie, j'avais beaucoup de difficultés pour utiliser le vocabulaire animal. Et donc j'ai essayé, j'ai parlé du visage de Mélodie, j'ai parlé de je crois pas que j'ai utilisé le terme de mettre bas, alors c'est accoucher, hein, mais comment dire, je savais que c'était des fautes de français, mais pour que le lecteur comprenne bien que j'écris comme cela tout à fait sciemment, il fallait que je réfléchisse énormément. Donc j'ai inventé une sorte de procédé littéraire pour que ces mots appartenant au vocabulaire humain passent très bien chez les lecteurs alors qu'il s'agit d'un animal. Voilà.
Alors là, c'est intéressant parce que bien sûr, ça introduit la position de l'écrivain, celui qui invente des astuces. Ça vous parlez d'astuces parce que c'est vrai que finalement, la perception du réel, elle dépend de la langue et donc des personnes qui vivent le même réel dans des langues différentes le traduisent de façon effectivement différente. Et là, l'auteur, lui, il peut inventer des façons de contourner cet écart, en fait. Il y a un écart, enfin, la langue fait qu'il y a un écart dans la perception des choses. En persan, on ne va pas exprimer, je ne sais pas, je reprends l'exemple de Maître Ba, voilà, en japonais, c'est pas possible, en persan, en arabe, je ne sais pas ce que ça donne. C'est,
Mais ce qui, effectivement, est assez complexe, en fait, à retraduire, parce que, moi, dans mon dernier roman, dans Nos richesses, je raconte la vie d'un quartier Alger, qui est un quartier populaire où il y a une histoire assez incroyable, puisque ça a été le lieu d'une histoire romanesque.
Formidable histoire d'un éditeur magnifique.
Voilà, ouais. Le premier éditeur de Camus, qui était éditeur résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a publié Vercors, Saint-Exupéry, etc., qui a travaillé avec De Gaulle, et qui, entre 1935 et 1961, dans ce lieu, s'est passé des choses à Alger, dans ce petit quartier, s'est passé des choses incroyables d'un point de vue de la grande histoire.
C'est Edmond Charlot. Voilà.
Voilà. Et donc moi, je suis retombée par hasard sur ce lieu et je suis allée chercher les archives, etc. Et j'ai voulu raconter cette histoire parce qu'elle est assez oubliée, peu connue finalement en Algérie, en France ou partout. Et pourtant, ça a été à un moment donné un lieu au cœur de l'histoire de l'Europe. Mais je raconte du coup aussi l'histoire de ce quartier-là aujourd'hui en 2017. Et j'écris en français pour raconter un quartier populaire algérois où des gens se parlent. Ils ne peuvent pas se parler en français comme je l'écris, comme on l'écrirait, c'est-à-dire si je devais respecter la grammaire, etc. C'est impossible. Ça serait absurde. Parce qu'un garçon de café dans un quartier populaire d'Alger aujourd'hui, lorsqu'il interpelle quelqu'un, lorsqu'il répond à un client, etc., etc., je parle beaucoup des cafés d'Alger, c'est impossible qu'il s'adresse en français, stricto sensu, grammaticalement correct, etc. Donc il faut détourner, il faut avoir la liberté, comme vous l'avez fait, de détourner un peu le français, d'intégrer peut-être des mots en arabe, parce que moi, j'en fais des mots qui peuvent être compris par le lecteur de langue française, et de détourner un peu la langue et de se réapproprier une langue qui pourrait fonctionner. Sinon, c'est absurde, en fait. Un garçon de café à Alger aujourd'hui, il ne s'exprimerait que très rarement ou très étonnamment comme un garçon de café parisien. C'est pas le même rapport à la langue. Et il y a un rapport qui est... Il faut prendre cette liberté-là de travailler sur la langue si c'est pour rendre service au récit et au texte. Et ça, moi, je crois qu'il faut vraiment se donner cette liberté absolue. Se dire le visage d'un chien, oui, ça ne serait pas correct au sens puriste du terme, mais si ça veut dire quelque chose dans votre imaginaire et pour vous, alors c'est correct et c'est très bien, je pense.
Et puis, est-ce que c'est pas aussi en partie le rôle des écrivains que de déconstruire la correction de la langue en partie.
Voilà. Moi, je suis un peu puriste quand même.
Non, enfin voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut. Non, mais de s'accorder des.
Oui, une liberté.
Prenez-le.
C'est ça.
Ça fait partie de l'art littéraire. Ça m'a intéressé l'expression en persan, là. Je t'aime. Tu es mon mouton.
Je suis ton mouton.
Ah, je suis ton mouton sacrificiel. Alors, ça m'a rappelé quelque chose. Alors, dans mon dernier roman, le personnage principal, c'est un japonais. Et il a besoin de dire, d'exprimer son amour pour sa femme. Alors en français, ce serait je t'aime. Hein? Et je crois que je fais dire au personnage japonais, je te mets dans mes yeux et je n'aurai pas mal. Avant de s'endormir, voilà, je te mets dans mes yeux et je n'aurai pas mal. Et c'est vraiment pour exprimer un amour infini en japonais, oui.
Alors, c'est très intéressant parce qu'en persan, on a une expression qui veut dire, en fait, si on la traduit, alors en persan, c'est Kadametru Cheshmam, ce qui veut dire marche sur mes yeux.
Ah, bah, c'est un peu, oui, oui, c'est intéressant.
C'est
oui.
Beau, hein.
Ça veut dire je t'aime.
Alors, ça ne veut pas dire je t'aime, ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un vous dit, les Iraniens exagèrent tout. Donc, quand quelqu'un vous appelle et vous dit, est-ce que je peux venir à 15h prendre un café chez toi, oui. L'autre lui répond, Kadamet lu cheshma, ça veut dire marche sur mes yeux. Donc, oui,
marche
viens.
Sur mes yeux.
Pour dire oui, viens, ça me va. Le ouais. Ok, voilà,
d'accord.
S'exprime comme
okay.
Ça.
D'accord, oui, oui. Oui.
Pour rester dans les yeux en arabe. Non mais, en arabe, pour dire à quelqu'un ma chérie ou ma puce, on dit Aïnia, mes yeux. Ce qui serait, dans un livre, ça serait très très laid de dire que quelqu'un appelle sa femme mes yeux. C'est assez atroce. On serait quasiment impossible avec les yeux.
Bon, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot un peu plus précis de vos derniers livres respectifs. On a commencé un tout petit peu avec votre livre Kaouter Adimi, mais on peut peut-être ajouter encore une ou deux choses. Alors c'est vrai que c'est à la fois le récit de cette magnifique aventure. Alors là, pour le coup, qui était une aventure très universaliste, parce que Edmond Charlot voulait publier des auteurs de toute langue, de toute confession. C'était un homme d'une ouverture d'esprit magnifique.
Alors Edmond Charlot, il est né en Algérie. D'une famille qui est arrivée en Algérie au XIXe siècle, d'origine catalane. Et non, pardon, pas d'origine catalane, d'origine espagnole. Et à 20 ans, il décide d'ouvrir une librairie, maison d'édition, bibliothèque. Donc il était à la fois bibliothécaire, libraire, éditeur. Et il publie, l'un des premiers textes qu'il publie, c'est celui d'un inconnu à l'époque, c'est celui d'Albert Camus. Donc ça va être le premier éditeur de Camus, ce qui va publier plusieurs livres de Camus, avant tout le succès que l'on connaît. Et il ouvre cette librairie au 2 bis de la rue Charras, aujourd'hui rue Hamani, donc un tout petit local. Et moi, j'ai plongé dans l'histoire d'Edmond Charlot et je vais raconter toute l'histoire des années 30, de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi être éditeur résistant pendant la Seconde Guerre mondiale en Algérie, son aventure parisienne, parce qu'il va s'installer à Paris où il va essayer de conquérir le milieu de l'édition avant de faire faillite et de rentrer en Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Et en parallèle, donc, je raconte la vie de ce quartier à Alger, toujours ce même quartier, en 2017, cette bibliothèque qui existe toujours. Et j'imagine sa fermeture, j'imagine qu'un jour, on met dehors le dernier préposé au prêt, Abdallah, un vieil homme qui était là depuis des années, qu'on le met à la porte, on le met en retraite, parce que ce local, cette bibliothèque a été cédée à un riche industriel qui veut y vendre des beignets, parce qu'on sait bien que des beignets, ça rapporte plus que des livres. Et donc vient un jeune homme de 20 ans qui est chargé de vider très vite le lieu, donc de jeter les livres, et c'est la rencontre entre ces deux hommes qui est une espèce de discussion socratique entre eux dans un quartier d'Alger, en parallèle de toute l'histoire d'Edmond Charlot, qui est l'histoire aussi du XXe siècle, de la grande histoire de l'Europe, de la Seconde Guerre mondiale et de l'Algérie. Voilà, donc les carnets de Charlot, ça alterne entre un carnet imaginaire d'Edmond Charlot, qui est basé sur les archives, les lettres de Charlot, les journaux d'époque, etc., et une partie fictionnelle de l'histoire de deux hommes, l'un qui est né avant la Seconde Guerre mondiale, qui a appris le français très tard, qui est un amoureux des livres, qui est très âgé, et un autre qui a 20 ans, qui n'aime pas du tout les livres, qui arrive à Alger et qui a juste envie de très très vite détruire ce lieu pour repartir. Voilà.
Dans votre roman, Maria Majadi, on ne l'a pas dit, on a parlé de l'apprentissage de la langue française, qui est une réalité présente dans le texte, mais il y a aussi, comme dans le roman de Kaouter Adimi, la présence de l'histoire, parce qu'en fait, l'exil des parents de cette petite fille, il est lié au fait que ce sont des opposants, d'où le titre, ils sont marxistes, d'où le titre Marx et la poupée, et qu'ils enseignent à leur fille, dès le départ, des vertus de partage, hein, puisqu'elle est contrainte de tout partager avec les autres enfants, y compris ses jouets, donc ses poupées, voilà, ça c'est l'autre...
Vous embellissez un peu la réalité quand vous dites la notion de partage, puisque pour cette petite fille, c'est un don forcé, hein, voilà.
Pour les parents, c'est...
Elle est obligée de donner ses jouets aux enfants pauvres du quartier de Téhéran, parce que l'abolition, il faut abolir en elle la propriété, voilà, la propriété étant un vilain défaut pour ses parents communistes. Il faut donc, dès le plus jeune âge, lui enseigner à se détacher du matériel. Voilà. Donc, oui, ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple de que je raconte dans le roman, c'est les prospectus que les parents cachaient dans les couches. Donc, dans mes couches, hein, ça, c'est une histoire vraie, les prospectus qu'ils cachaient dans mes couches culottes parce qu'il fallait les amener à une autre antenne et située dans la ville. Et pour ne pas se faire prendre, mon père avait eu l'idée de les glisser dans mes couches culottes en étant quasiment sûr que la police n'allait jamais fouiller un bébé de 6 mois, 4 mois, voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est curieux quand... Maintenant, avec le recul, ça nous fait rire, mais sur le moment, c'était extrêmement sérieux et dangereux, en fait. Hein. C'était pas du tout drôle, tout ça. On risquait la prison et puis surtout, on risquait sa vie, parce que à cette époque-là, le régime de Khomeini n'hésitait pas à liquider, à tuer tous les opposants politiques. C'est vraiment les années noires de la révolution islamique, hein, à ce moment-là.
Dans votre dernier roman, Akira Mizobayashi, on l'a compris, il y a une histoire d'amour très forte de votre personnage, Sennen, donc pour sa femme, avec cette très belle expression que vous avez citée tout à l'heure, sa femme qui est en train de mourir. Mais il y a aussi, et beaucoup, ça occupe une place considérable dans le roman, une part accordée à la musique, puisque tous les deux sont mélomanes. Et... lui, notamment, passionné des Noces de Figaro. Et donc, vous arrivez, ce qui est, je crois, quelque chose d'assez difficile, à parler de musique de façon très détaillée et très pointue dans un roman. Ce qui, moi, me semblait difficile, vous y arrivez. En tout cas, ça occupe vraiment une place très forte.
Oui. C'est une grande histoire d'amour qui tourne autour des Noces de Figaro de Mozart. Et... l'idée initiale, c'était de rendre hommage. Comment rendre hommage au génie de Mozart qui a composé cet opéra qui, pour moi, représente tout le contraire du Japon. Voilà. C'est une grande histoire d'amour, mais il y a une dimension politique qui est un peu cachée et peut-être qu'on peut apercevoir à travers la situation du personnage principal. Il s'agit d'un Japonais âgé qui a fui l'après-Fukushima du Japon. Et il a abandonné son pays, qui devient de plus en plus insupportable, pour venir vivre, s'installer à Paris. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu mon double, mais je n'ai pas abandonné ce pays, je continue à vivre à Tokyo. Mais l'idée initiale, c'était de rendre hommage à cet opéra et au génie de Mozart qui a créé cet opéra, qui est un miracle pour moi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre ce sentiment de miracle à celui qui me lit ? Et il ne s'agissait surtout pas d'écrire un traité de musicologie. Donc, j'ai imaginé une fiction... Une histoire d'amour qui tourne autour et comme pour moi c'est un miracle, il fallait que je crée un miracle dans ce roman pour adopter l'idée d'un miracle, il a fallu que je rencontre, que je fasse la découverte de la version des Noces de Figaro qui m'a complètement subjugué, qui a été réalisée il y a quelques années par un chef d'orchestre grec, russe, puisque bon, il est né en Grèce, mais il travaille en Russie, et qu'on a pu entendre il y a quelques jours dans la région, d'abord à Genève, ensuite à Vevey, et j'ai eu le bonheur d'assister à ces deux concerts. Alors, il s'agit d'un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Theodore Corentis, qui raconte ceci dans son disque, dans le petit livret qui accompagne l'enregistrement. Il a eu l'expérience de monter cet opéra dans un hôpital à Moscou, devant un public de malades en phase terminale. Et il ne peut pas oublier la réaction de ces gens, de ces malades qui étaient condamnés à mourir quelque temps après. Et il ne peut pas oublier cette la réaction de ces malades qui n'avaient jamais entendu cet opéra. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de travailler sur la partition de Mozart pour, en se demandant d'où vient cette puissance. D'où vient cette puissance. Et quand j'ai lu ce petit passage, je me suis dit, ça correspond exactement à mon sentiment. D'où vient cette puissance? D'où vient le... Comment dire? Il dit qu'il s'agissait de célébrer la vie. Et c'est mon sentiment tout à fait quand j'écoute cet opéra, cette musique miraculeuse. Alors, il fallait que je célèbre la vie dans mon roman. Et donc, tout en parlant de cet opéra, il y a des endroits où c'est assez minutieux comme analyse ou comme sentiment, mais mon but c'était de créer et de magnifier la vie, notre vie à tous, à travers cette musique qui produit parfois des choses miraculeuses. Et j'ai créé un miracle dans ce roman, mais un petit miracle qui n'en est pas un, peut-être, qui est accepté par le lecteur, peut-être. Voilà, c'est ce que j'espère, en tout cas.
Une dernière question, et puis peut-être après, si on a le temps, on prendra vos questions à vous. Vous avez tous les trois la langue française en partage, non seulement cela, mais vous écrivez tous les trois en français. Et puis vous êtes chacun porteur d'une autre langue, persan, arabe, japonais. Alors on s'accorde en général pour considérer que le fait d'être porteur d'une deuxième langue, c'est plutôt une richesse. Est-ce que vous le vivez de cette manière-là? Est-ce que vous l'exprimeriez en disant que c'est une richesse de posséder et de porter en soi deux langues?
Oui, je pense que c'est clairement une richesse au sens où... En plus d'une langue, c'est notre culture. Donc, il y a une richesse de culture. Et puis, je pense aussi, en tout cas, moi, l'arabe, ça donne... Enfin, moi, ça m'ouvre énormément de pays qui parlent arabe. Donc, une facilité de compréhension plus large, une facilité de lecture de l'actualité beaucoup plus large aussi, puisqu'on... On a accès à des milliers de chaînes de télévisée, de journaux, de littérature, et ça me permet d'appartenir à une partie du monde beaucoup plus large, je pense. En tout cas, moi, je le vis vraiment comme une richesse et en même temps comme une complexité, puisqu'il faut cohabiter avec ces deux langues en permanence. La transmission de la langue, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense qu'il ne faut pas... Il y a une forme de responsabilité, c'est-à-dire que l'arabe et le français, il faudrait qu'à un moment donné, moi-même, je puisse les transmettre. Et j'ai très, très peur, moi, de la fin de la transmission, de la perte. Des fois, je me dis, mais ça fait combien de temps que je n'ai pas parlé en arabe? J'ai très, très peur de ça, de perdre une partie de ma langue à force de vivre à l'étranger. Donc, c'est une richesse et une complexité de tous les jours.
Oui, moi, je dirais qu'il y a vraiment deux versants. Il y a un versant négatif qui rejoint ce que Kauter dit par rapport à la complexité au niveau identitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de se positionner, du coup. L'identité est multipliée presque à l'infini, on ne sait jamais vraiment. En tout cas, moi, je suis partie vivre en Chine, je me suis sentie très à l'aise là-bas, alors que j'ai aucun lien avec les Chinois, avec la Chine. Je suis partie vivre en Turquie, je me sentais turque. Quand je pars n'importe où en vacances, je me dis, là j'étais en Grèce, j'étais là, je pourrais être grecque. Vous voyez, il y a comme une non-appartenance, en fait, finalement, le fait d'en avoir deux, d'avoir deux identités, c'est comme si on en avait tellement qu'on n'en a plus. Il y a cette chose extrêmement bizarre qui se passe. Et le versant positif, c'est que du coup, on est partout chez soi, on se sent partout citoyen du monde. Voilà ce que ça m'apporte aussi. Mais c'est pas forcément évident, en fait. Je sais pas, le mot richesse veut forcément dire que c'est positif. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une richesse sur le plan culturel, effectivement, d'avoir une double culture amène une distance par rapport à ces deux cultures. Je suis très critique par rapport à la France, je suis très critique par rapport à l'Iran. Et en même temps, j'aime ces deux pays, deux langues, deux cultures. Mais voilà, il faut essayer de jongler avec ces identités multiples et essayer de trouver son chemin et peut-être l'esprit éclectique dont vous parliez est une voie possible pour éviter d'appartenir justement à une seule chose unique qui nous enfermerait et qui ferait qu'on tomberait dans le dogmatisme le plus abrutissant.
Oui, je suis un petit peu mal à l'aise par rapport au mot richesse, mais c'est certainement une richesse parce que je crois que si j'étais resté dans ma langue maternelle, dans la prison de ma langue maternelle, je n'aurais pas découvert ce que je sais maintenant. Donc c'est en sortant de ma langue maternelle que j'ai trouvé des choses qui n'existaient pas dans ma langue. Cela dit, votre question me renvoie à ce que j'ai lu récemment dans un livre de Barbara Cassin, c'est une philosophe, qui a écrit un livre magnifique sur justement le problème de la langue. Et ça s'appelle La nostalgie, je crois. Et elle dit, je cite de mémoire, donc ce n'est pas totalement exact, elle dit à propos de Hannah Arendt qu'il faut parler au moins deux langues pour dire qu'on parle une langue. Voilà. Et quand on parle plus d'une langue... D'ailleurs, c'est le titre d'un autre livre de Barbara Cassin, « Plus d'une langue ». Quand on parle plus d'une langue, c'est là qu'on peut se dire qu'on parle enfin une langue. Et c'est la langue qu'on parle. Voilà. Donc, à mon avis, c'est certainement une richesse. Oui.
En tout cas, c'est une belle formule. Enfin, c'est plus qu'une formule, mais c'est intéressant à... Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se sépare? Si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Oui. Vous avez un
micro? Oui, parce qu'on ne va peut-être pas vous entendre correctement.
Je vais vraiment bien dire à la culture japonaise. J'aimerais comprendre pourquoi, en quoi votre langue maternelle était une prison. Ça me...
C'est très long à expliquer. D'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est certainement lié au contexte des années 70 que j'ai vécu en tant qu'adolescent. Je n'entendais que des slogans politiques vidés de sens. Ça, c'est une raison très forte. J'ai très très mal vécu cette période-là. J'étais entouré de lycéens et d'étudiants qui répétaient sans cesse des choses, des idées toutes faites, et ça m'a rendu vraiment mal à l'aise, et je suis devenu complètement muet pendant un certain temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, c'est long à expliquer, la société japonaise, depuis au moins 1500 ans, c'est une société extrêmement rigide, verticalement structurée. Et cette structure verticale, faite de domination et de soumission, c'est la langue qui sert à la perpétuer, en quelque sorte. Les structures sociales sont inscrites dans la langue japonaise. Et quand j'ai commencé à découvrir un autre monde, c'était à travers la traduction japonaise, donc je rends hommage aux traducteurs japonais. Quand j'ai commencé à lire Stendhal, Flaubert, ces grands auteurs, et puis les auteurs du XVIIIe siècle, j'ai aperçu un autre monde. Et je crois que je ne m'étais pas trompé, c'était un autre monde, effectivement. Et le malaise profond que j'éprouve encore en vivant à Tokyo, c'est fortement lié à cette structure de domination et de soumission que la langue reproduit sans cesse. Alors, c'est la langue qui a produit la société ou la société qui a produit la langue? C'est peut-être dans un rapport de réciprocité dialectique, mais en tout cas, la chose est comme ça. C'est cela, je crois, le plus profondément que j'ai mal vécu.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui.
J'ai vécu 26 ans en polonais. Depuis 30 ans, je vis en français. J'ai écrit en polonais. J'ai commencé à écrire en français. Donc, je suis aussi, d'une certaine façon... face à toutes ces questions que vous avez posées. Et ma question, c'est, j'ai le sentiment que changer de la langue, ça change la personnalité aussi. D'abord ça, j'ai l'impression que je suis une autre personne quand je parle polonais et une autre personne quand je parle français. Ça veut dire, j'ai toute cette culture qui va avec. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette connaissance de la 12e langue, en fait, ou cette habitation de la 12e langue, influence notre langue maternelle, on peut dire? Il y a aussi... Oui, voilà, ça c'est les questions.
Moi, sur la première question, je pense qu'il y a un peu de vrai et que parler en français, en arabe, en anglais, peu importe, moi, en tout cas, parfois me donne l'impression d'être différente en fonction des langues, d'avoir une posture différente et un ton différent au-delà de la langue. Donc, je pense, mais peut-être parce que chaque langue me renvoie aussi à un environnement, à une culture, etc. Et que peut-être que c'est pas la langue qui s'habitue à nous, mais que c'est nous qui nous contenons dans une langue et à ce qu'elle veut dire. Et votre deuxième question, excusez-moi, j'ai un trou sur l'influence de l'une sur l'autre. Mais c'est une question extrêmement intéressante. Je ne sais pas, en fait, s'il y a une influence sur le... Sûrement qu'il doit y en avoir une, même si, pour ma part, j'ai le sentiment, comme ça, de manière assez intuitive, de vous dire que j'ai l'impression qu'elles sont extrêmement différentes, que je valse de l'une à l'autre, mais qu'elles se mélangent rarement. Et que quand elles se mélangent, c'est par défaut, parce qu'une émotion a pris le pas sur une autre ou qu'un mot a pris le pas sur une autre. Je dirais juste qu'à un moment donné, peut-être que dans la maturité de la maîtrise des langues, arrivé à un certain niveau, on s'oblige à un perfectionnement dans l'autre langue. Parce que j'aime beaucoup cette phrase de « c'est quand on connaît deux langues qu'on en connaît une ». Je dirais que quand on en connaît une et qu'on en apprend une autre, on a tendance à se dire qu'il n'est pas normal qu'on ne les maîtrise pas au même niveau. Pourtant, c'est normal, en fait, parce qu'il y a des langues dans lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Peut-être qu'en cela, c'est une influence.
Alors, pendant longtemps, moi, j'avais l'impression, effectivement, d'avoir deux identités selon les langues que je parlais. Et en fait, c'est plus du tout le cas. Je pense que je me suis réellement réconciliée, en fait, avec ça. Donc, je ne suis pas différente, en fait, quand je parle persan ni français. C'est l'illusion que j'avais, en fait. Et c'est toujours comme ça que je me présente, en disant, non, mais tu vois, quand je parle persan, je suis beaucoup plus dans l'émotion, je suis beaucoup plus sensible. Et puis, quand je parle français, je suis beaucoup plus ceci ou cela. Mais c'est faux, en fait. Et je m'en rends compte de plus en plus avec le temps, c'est que quand je vois, par exemple, mes parents, parce que mes parents sont les seules personnes vraiment en France avec qui je parle persan. Quand je les vois avec des amis français ou avec mon compagnon français et que nous parlons donc tous ensemble autour d'une table, lors d'un dîner, etc., je ne suis absolument pas différente. Et je jongle, hein, je passe d'une langue à l'autre, je parle en persan, je traduis le français. Mes parents parlent très bien français aujourd'hui, mais on s'amuse en fait à jongler comme ça. Et je ne suis pas du tout différente. Je suis exactement la même au regard de mes amis, de mes parents. Et donc, je crois que c'est une illusion qu'on a. C'est espèce de schizophrénie comme quoi plus on a de langues et plus on a des identités différentes. Je ne crois pas qu'elles s'opposent, en tout cas. Pour moi, elles se complètent et il y a vraiment une réconciliation qui se fait, en tout cas, sur le terrain littéraire à travers l'écriture. L'écriture permet justement les passerelles et les ponts et permet à ces deux langues de s'influencer, en fait, mutuellement, pour moi. Et voilà. Donc...
chose quand vous rentrez en Iran et quand vous parlez seulement avec des Iraniens qui ne parlent pas français.
Ah, alors là c'est différent parce qu'on est dans un contexte géographique qui est différent. Mais même là, en fait, je me suis rendu compte que...
C'est vrai que c'est pas nécessaire.
Oui, avec la voix
finalement, oui, c'est pas nécessaire.
Que, en fait, vraiment, les derniers voyages que j'ai effectués en Iran,
Les gens me disaient, mais t'es vraiment française, quoi. Et pourtant, je parlais persan. Mon outil linguistique était le persan. Et l'identité française, pourtant, était visible. Donc, c'est pour ça, je voyais, c'est un exemple pour montrer que, finalement, c'est là, c'est présent, c'est une identité complexe et complexifiée par la culture, les cultures différentes. Et finalement,
est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous comporter différemment?
Et vous avez ce sentiment?
Ah oui, j'ai totalement ce sentiment-là.
Ça va, ça passe bien,
c'est là.
Alors, pour moi, c'est vraiment la langue qui détermine la manière d'être. Oui, j'ai deux manières d'être différentes. Sinon, ça ne marche pas. C'est peut-être lié au fait que la distance qu'il y a entre le japonais et le français est presque infinie, je dirais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable. Donc, quand je parle en japonais avec des japonais qui ne parlent pas français, j'ai des comportements différents qui sont dictés par la langue japonaise. Et une langue, c'est un ensemble de mots et de règles grammaticales, mais c'est un ensemble de comportements dictés justement par cette langue. Et donc, moi, je n'ai pas du tout votre sentiment-là. Quand je viens ici, je viens un autre homme. Et puis quand je rentre au Japon, je vis ce passage-là, d'une langue à l'autre, et puis, je suis la même personne, mais je jongle. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'identité, là. Ce n'est pas une question d'identité. Je ne sais pas. C'est très compliqué, en tout cas, ce qui se passe en moi. Je ne peux pas me comporter dans la langue japonaise comme je me comporte dans la langue française. Ça, c'est l'évidence pour moi. Et peut-être, à cause de cette distance, ça peut être une source de souffrance. Pour moi, c'est une source de souffrance de temps en temps.
Oui, c'est fini, je suis désolée, on doit arrêter, je suis navrée, mais vous allez pouvoir poursuivre.
Mais on va être aux séances de dédicaces, si vous voulez nous rejoindre.
Il y a une séance de dédicaces, oui, voilà. Voilà. Et puis donc, je voudrais quand même rappeler les titres de vos romans, donc Nos richesses, Kaout et Radimi, c'est aux éditions du Seuil, Mariam Majidi, donc Marx et la poupée, au Nouvel Attila, et Akira Mizubayashi, Un amour de 1000 ans, chez Gallimard. Merci infiniment à vous trois, et puis donc les conversations vont pouvoir se poursuivre avec les dédicaces. Merci beaucoup.